ces relations intolérables du point de vue, intolérables pour le malade d'être précisément un objet sans volonté, sans personnalité entre les médecins, entre les mains du médecin, mais en même temps qui permet, je crois, une connaissance beaucoup plus directe, beaucoup plus intense de ce qui se passe. Parce que lorsque la recherche scientifique, on la ressent dans sa propre chair, lorsqu'on sent soi-même les réactions du corps, c'est une connaissance tout à fait différente que si on fait quelque chose sur un objet malade, et que quelques aiguilles ou autres enregistrent des réactions de façon purement quantitative. Je pense qu'il y a là un ensemble de facteurs où les facultés rationnelles de la personne ne sont plus séparées des autres, elles ne sont plus séparées par exemple de l'expérience sensorielle directe, ni disons des motivations nature affective, appelez-les idéologiques, appelez-les comme vous voudrez. Donc je pense qu'il y a là véritablement une intégration des différentes facultés cognitives que nous avons, des différentes facultés de connaissance, qui fait absolument défaut dans la pratique scientifique dominante, occidentale, où nous avons au contraire, nous faisons tout pour arriver, coûte que coûte, à séparer les facultés purement rationnelles et même l'application d'une certaine méthode d'application de ces facultés rationnelles et tout le reste de nos possibilités de connaissance. Et c'est ça, en un sens, qui a abouti à cette espèce, c'est un des facteurs qui a abouti à cette espèce de délire technologique qui fait que des savants sont capables de se fasciner sur des problèmes techniques, par exemple posés pour la construction de missiles intercontinentaux ou d'autres choses analogues, sans du tout se poser la question des implications atroces d'une utilisation éventuelle de ce qu'ils sont en train de construire.
Vous avez dit que, d'après votre opinion, il faut changer la société dans une société post-industrielle dans 10 ou 20 ans. Je vous accorde même 50 ans. Je vous demande la chose suivante. Supposez qu'une fée vous accorde un pouvoir illimité de persuader tout le monde de faire ce que vous pensez qu'il faut faire. Qu'est-ce que vous ferez sans provoquer une grande catastrophe, disons, de, je sais pas, de sous-nourrissement, etc., etc.
Je crois qu'il y a déjà un malentendu de base. Je n'ai pas dit qu'il faut que qui que ce soit, de particulier moi par exemple, ou quelqu'un d'autre, transforme la société industrielle comme ça, dans les 10 ou 20 ou 30 années qui viennent, dans une autre forme de société prédéterminée. Et si effectivement une fille me demande m'investissait des pouvoirs discrétionnaires, bien, je lui dirais que j'en ai pas envie, que effectivement, je suis bien persuadé que ce que je pourrais faire à ce moment-là, ce serait guère autre chose que de mettre encore plus de messe, de mettre encore plus le bordel que celui qui est déjà. En fait, je suis entièrement convaincu que absolument personne n'est capable, disons, de programmer, de prévoir les changements qui vont avoir lieu. Je pense que la complexité des problèmes planétaires, elle est si grande qu'elle défie absolument les capacités d'analyse mathématique ou expérimentale. En fait, nous sommes dans une situation où les sciences, où les méthodes des sciences expérimentales ne nous servent pratiquement à rien, parce que finalement, une planète Terre, il y en a une seule, et une situation comme la situation de crise où nous sommes maintenant, elle a lieu une seule fois dans l'histoire de l'évolution. Nous n'avons pas, donc, nous n'avons pas là une expérience que nous puissions répéter à volonté pour voir dans tel et tel et tel, avec tel ou tel ou tel mode opérationnel, quelles vont être les conséquences de façon ensuite optimiser nos modes opérationnels. Il n'est absolument pas question de ceci. Il s'agit d'une situation unique, d'une complexité qui dépasse infiniment nos possibilités d'analyse et de prédiction détaillées. Donc tout ce que nous pouvons faire, j'en suis persuadé, c'est que chacun dans notre propre sphère d'activité, dans notre propre milieu humain, nous essayons d'être un ferment de transformation dans la direction qui au juger intuitivement, par notre intuition, nous semble la plus indiquée, en commençant par les rapports humains avec nos proches, les membres de notre famille, nos enfants, notre femme, nos amis, également nos collègues de travail. Je pense que ça, c'est une première transformation qui a cet avantage, j'en suis persuadé, d'être communicatif, de se communiquer des uns aux autres. Parmi, disons, les transformations à effectuer précisément, il y a, je crois, le dépassement de l'attitude de compétitivité entre personnes, le dépassement de l'attitude du désir de domination des uns par rapport aux autres, qui engendre d'autre part des désirs de soumission à l'autorité. Je crois qu'on a là deux aspects de la même tendance. Et également, et peut-être surtout, l'établissement, disons, de la communication entre les personnes, qui est devenue extrêmement pauvre, je pense, dans notre civilisation. J'ai fait un peu le bilan de ma propre vie et des relations humaines que j'ai eues, et j'ai été frappé de constater à quel point la véritable communication était pauvre. Par exemple, en milieu mathématique, eh bien, entre collègues, pratiquement, la conversation roule uniquement sur des sujets techniques concernant la mathématique. Bon, j'ai eu un certain nombre de relations amoureuses dans ma vie, comme sans doute la plupart d'entre vous, et là également, je me suis aperçu à quel point la communication véritable, la connaissance l'un de l'autre, était pauvre, et je suis tout à fait convaincu qu'il ne s'agit pas d'une particularité liée à ma personne, parce que je serais personnellement moins doué pour la communication que d'autres. En fait, je suis convaincu qu'il s'agit là d'un phénomène général dans notre culture, et effectivement, en parlant avec beaucoup d'autres personnes, je me suis aperçu de la même, de constatation tout à fait analogue. En fait, pour ma part, par exemple, j'ai pris cette décision générale, c'est que je n'attacherai plus, je ne poursuivrai plus de relations amoureuses, par exemple, avec une femme, que dans la mesure où elle me semblerait être un moyen pour établir une communication plus profonde. Si vous voulez, c'est juste un exemple particulier d'une façon dans laquelle chacun de nous peut, dans l'immédiat, transformer la façon dont il aborde les autres. Également, je peux vous dire que mes relations vis-à-vis de mes enfants ont changé, en ce sens que j'ai compris que dans beaucoup d'occasions, j'ai exercé sur eux une autorité assez arbitraire, disons dans les choses qui, en bonne conscience, en fait, étaient de leur propre ressort. Donc là, ce sont des choses qu'on peut modifier, et j'ai l'impression que ce type de modification, on peut se dire, en première vue, on se dit, en quoi sont-elles liées, disons, aux problèmes globaux et de la survie? Eh bien, je suis convaincu, mais je ne peux pas le prouver, parce que rien d'important ne peut être prouvé. On peut simplement le ressentir, le deviner. Je suis convaincu qu'effectivement, ces changements dans les relations humaines vont être un facteur tout à fait déterminant, peut-être le plus important, dans les changements qui vont se faire d'un mode de civilisation vers un autre. Parce qu'encore une fois, il est maintenant devenu tout à fait clair pour moi que ces changements ne se feront pas par la vertu d'innovations techniques, de changements de structure, des changements véritablement profonds qui vont se faire. C'est un changement dans les mentalités, dans les relations humaines.
Je voudrais revenir à la recherche scientifique. Vous parlez des déviations, en fait, de la recherche scientifique, et je suis en partie d'accord avec certains de vos diagnostics. Le fait que nous recherchons trop la gloire personnelle, l'asservissement à la mode, les prétentions abusives de certains scientifiques. Mais la question que je voudrais poser, ceci est-il inhérent à la science? J'entends par la science, la science, à mon avis, voudrait construire et modifier une nouvelle vision du monde. Ceci est-il inhérent à la science? Et quel but donneriez-vous à une autre pratique scientifique?
Bien, quand on dit inhérent à la science, évidemment, on est inhérent à quelle science? Je pense que c'est inhérent à la science telle qu'elle est définie par la pratique des derniers siècles, telle qu'elle s'est développée depuis le début des sciences exactes. Je pense qu'elle est inhérente à la méthode même de ces sciences. Alors, parmi les traits distinctifs, je dirais donc, de cette pratique scientifique, il y a d'une part la séparation stricte de nos facultés rationnelles et des autres modes de connaissance, donc la méfiance instinctive de tout ce qui est, disons, émotivité, tout ce qui est connaissance philosophique, religieuse, tout ce qui est considération éthique, tout ce qui est aussi ressenti sensoriel direct. En ce sens, nous avons plus confiance dans les indications d'une aiguille sur un cadran que en ce que nous ressentons immédiatement, directement. Je crois qu'une chose qui mesure très bien cette méfiance vis-à-vis du vécu immédiat, enfin, je pourrais citer bien des choses, mais une qui me semble particulièrement frappante, c'est le cas, disons, de parents qui vont voir avec leur enfant un médecin en lui disant « Voilà notre enfant, nous sommes bien malheureux, il devient de plus en plus impossible en classe, il est kleptomane, il se bagarre avec tout le monde, chez nous, il reste à bouder des journées entières, il fait pipi au lit, j'en passe, disons. » Et il pose la question, est-ce que notre enfant est malade? Alors, donc, on demande au spécialiste, à la personne qui sait, de prononcer une formule rituelle, votre enfant est malade ou votre enfant n'est pas malade. Dans le cas où votre enfant est malade, eh bien, à ce moment-là, on s'attend à ce qu'il prescrive un médicament, une méthode de traitement, quelque chose qui le fera venir dans l'autre cas, le cas « votre enfant n'est pas malade » et un point, ce sera tout. Mais si par hasard, il dit « votre enfant n'est pas malade », eh bien, les parents, un peu consolés, s'en iront chez eux, ils auront l'impression qu'il n'y a pas de problème qui se pose réellement. Bon, c'est, je crois, une des façons d'illustrer cet état d'esprit dans la science, de vouloir, c'est ça, faire abstraction du vécu et tout énoncer en termes de normes purement rationnelles qui s'expriment, disons, qui sont incarnées par des spécialistes. Alors nous en arrivons ici au deuxième point, au deuxième vice de méthode, qui est inhérent à la méthode scientifique, c'est l'attitude analytique, qui bien entendu, je sais bien que ça a été un besoin dans le développement de ce type de connaissances. Le fait de diviser chaque parcelle de réalité, chaque problème en des composantes simples pour mieux les résoudre. Et cette tendance à la spécialisation, comme on sait, est devenue de plus en plus grande. Chacun de nous maintenant ne saisit qu'une parcelle infime de la réalité, ce qui fait qu'en fait, chacun de nous est parfaitement impuissant pour saisir, pour comprendre et pour prendre des options dans n'importe quelle question importante de sa vie ou de la vie de sa communauté ou de la vie du monde. Parce que n'importe quelle question importante a une infinité d'aspects différents. Son découpage en petites tranches de spécialités est parfaitement arbitraire. Et ce qu'un spécialiste tout seul ne peut pas faire, eh bien, un colloque de 100 spécialistes de spécialités différentes n'y arrivera pas non plus. En fait, finalement, par sa propre logique interne, par l'évolution de la méthode analytique, on est arrivé à un point, je crois, où indépendamment de la question des crises écologiques, on est arrivé à une crise de la connaissance. En ce sens, je crois que s'il n'y avait pas eu la crise écologique, d'ici 10 ou 20 ans, on se serait tous aperçus qu'il y a une profonde crise de la connaissance, même au sens de la connaissance scientifique. En ce sens, qu'on n'arrive plus à intégrer dans une image cohérente une vision du monde, puisque après tout, c'est à ça que nous voulons arriver, à une vision de la réalité qui nous permette d'interagir favorablement avec elle à partir de nos petites tranches de spécialité. Alors, c'est un deuxième aspect qui me semble être devenu néfaste. Il y a un troisième qui est lié à celui-ci, c'est que les spécialités s'ordonnent spontanément les unes par rapport aux autres d'après des critères objectifs de subordination des unes aux autres, de telle façon que nous voyons apparaître une stratification de la société, en commençant, disons, par une stratification de la science, d'après des soi-disant critères objectifs de subordination des spécialités les unes aux autres. En ce sens, la science, dans sa pratique actuelle, telle qu'elle s'est développée depuis 300-400 ans, me semble le principal, comment dire, support idéologique de la stratification de la société avec toutes les aliénations que ça implique. Je crois que, en ce sens, la communauté scientifique est une sorte de microcosme qui reflète assez fidèlement les tendances à l'intérieur de la société globale. Alors, d'autre part, quatrième point, c'est la séparation, disons, dans la science entre connaissance et désir et besoin, c'est-à-dire la connaissance scientifique se développe d'après des critères, disons, d'après soi-disant une logique interne à la connaissance, d'après des critères soi-disant objectifs pour la poursuite de la connaissance, mais en fait, en s'éloignant de plus en plus de nos besoins et nos désirs véritables. En fait, la chose la plus frappante à cet égard me semble l'état de stagnation relative dans lequel se trouve l'agriculture depuis 400 ans que les sciences exactes se développent, quand on le compare avec l'essor de branches comme la mathématique ou la physique ou la chimie ou plus récemment la biologie. En fait, l'agriculture, après tout, c'est la base de nos sociétés dites civilisées depuis 10 000 ans. C'est véritablement l'activité de base de la société. C'est de là que nous tirons l'essentiel des ressources pour satisfaire à nos besoins matériels. On aurait pu penser qu'avec le développement d'une méthode de connaissance nouvelle, on les appliquerait en priorité à l'agriculture pour nous permettre de nous libérer dans une certaine mesure de cette obligation d'un travail démesuré pour arriver à satisfaire à nos besoins élémentaires. Eh bien, il n'en a rien été. Encore actuellement, je crois que pour la plupart d'entre nous, l'agriculture, on ne la considère même pas comme une science. Ça semblerait indigne pour un esprit brillant de s'occuper d'agriculture. Or, je pense précisément que dans une pratique scientifique nouvelle, eh bien, la première chose à se demander, c'est à quoi peut servir le contenu de la science que nous développons. Et je pense que parmi les thèmes les plus importants qui seront étudiés par une science nouvelle, il y aura précisément le développement de techniques agricoles nouvelles, beaucoup plus efficientes et surtout beaucoup plus viables à longue échéance que les techniques qui ont été utilisées jusque maintenant. Alors là, il y a quelques critiques de la pratique scientifique actuelle, et je suis convaincu, d'après ce que j'ai entendu dire jusque maintenant, de certaines tentatives dans un sens novateur, qu'on peut surmonter ces limitations de la science actuelle, qu'on peut donc développer une science qui soit directement et constamment subordonnée à nos besoins et nos désirs, dans laquelle il n'y ait plus de séparation arbitraire entre l'activité scientifique, disons, et l'ensemble de nos modes de connaissance, où il n'y aurait plus de séparation arbitraire entre la science et notre vie, mais du même coup aussi, les relations humaines qui sont promues par l'activité scientifique changeraient du tout au tout. La science ne serait plus la propriété d'une caste scientifique, la science, ce serait la science de tous. Elle se ferait non pas dans des laboratoires par certaines personnes hautement considérées à l'exclusion de l'immense majorité de la population, elle se ferait sur les champs, dans les jardins, au chevet des malades, par tous ceux qui participent à la production de la société, c'est-à-dire à la satisfaction de nos besoins véritables, c'est-à-dire en fait par tout le monde. Donc, la science devient véritablement la science de tous. En fait, pour les nouveaux alchimistes, ce groupe auquel j'ai fait allusion, c'était même une nécessité du point de vue technique, parce que leur intention, leur thème de départ, c'était de développer des biotechnologies qui permettent, avec des moyens extrêmement rudimentaires, ne faisant pas appel aux moyens de l'hyperstructure industrielle technologique, de créer des écosystèmes artificiels très productifs en nourriture, en suppliant aux moyens technologiques au sens ordinaire, par exemple l'introduction d'une source continue d'énergie par l'électricité, disons, ou l'approvisionnement en aliments par les industries chimiques, par les engrais ou par les aliments qu'on donnerait au bétail ou aux poissons, en suppliant donc à ces moyens par une connaissance sophistiquée et globale des phénomènes naturels à l'intérieur de ces écosystèmes artificiels. Alors, pour ce faire, ils se sont convaincus qu'il n'était pas pensable de le faire à l'intérieur des structures académiques existantes, en fait, que ce n'était pas possible de le faire à l'intérieur même des laboratoires fermés, qu'on ne pouvait le faire que sur le terrain, parce qu'il fallait tenir compte, dans le développement de ces techniques, de facteurs subtils écologiques qui varient énormément d'un microsystème écologique à un autre, dont il y a des milliers et des dizaines de milliers dans un pays tel que les États-Unis, où ils poursuivent leurs activités. Donc, pour arriver à développer ces méthodes, c'est sur le terrain qu'il faut les développer et que tous doivent s'y associer virtuellement. Donc, les nouveaux alchimistes sont en relation, en fait, avec des millions d'Américains intéressés à l'agrobiologie, à Organic Gardening and Farming, donc ils appellent ça l'agriculture et le jardinage organique, par l'intermédiaire d'un magazine américain, The Organic Gardening and Farming Magazine. Et parmi ceux-ci, il y a déjà eu des milliers de petites gens, de petits paysans, de petits jardiniers qui leur ont écrit pour s'associer à leur recherche concernant le développement de tels écosystèmes. Donc actuellement, il ne s'agit pas simplement d'idées dans l'air, mais il s'agit de choses qui sont en train d'être faites dans un pays aussi radicalement opposé à ce genre d'esprit que les États-Unis. Mais encore une fois, par des détails pratiques, par des détails concrets dont m'a parlé John Todd, un des fondateurs des nouveaux alchimistes, il n'est absolument pas possible de promouvoir ce genre de recherche à l'intérieur des structures académiques existantes. Ils ont essayé, mais c'est impossible.
Le fait que 99,9% de la population n'a pas accès à la science. Néanmoins, il faut remarquer qu'elle a un respect plus grand de la science que vous, et c'est basé sur un fait qui n'est pas simplement dû à son ignorance. Par exemple, on peut se poser la question, combien de gens dans cette salle doivent la vie au fait qu'il y a eu cette science que vous décriez, qui a eu des retombées en médecine, par exemple, qui n'était pas l'acupuncture, qui n'était pas la remontée des matrices, mais qui était simplement la pénicilline, qui était un certain nombre de choses décisives qui ont fait que la population du globe, elle a augmenté. Un certain nombre d'entre nous, nous vivons, votre groupe s'appelle Vivre, nous vivons parce qu'il y a eu cette science maudite. Il est vrai que nous risquons la destruction et qu'il est naturel qu'il y ait une réflexion sur ce qu'est la science aujourd'hui entre les mains de types qui semblent surgis du fond des âges parce que ce sont des barbares qui sont prêts à l'utiliser pour détruire l'humanité, c'est vrai. Mais une partie de cette réflexion, je trouve, chez vous, elle est détruite par l'espèce de nihilisme absolu, de négation absolue que vous professez à l'égard de la science. Et dans votre exposé, j'ai relevé un certain nombre d'affirmations péremptoires qui enlèvent une partie du poids à votre position. Vous avez émis le doute qui vous a été, il est basé sur des relations que vous avez avec certains champs du ciel, que la recherche que nous pouvons faire, nous par exemple, le fait que nous pensons qu'elle n'a pas d'application militaire, c'est quelque chose que l'on peut parfaitement mettre en doute. On doit être peut-être tous complètement idiots, mais je ne crois pas. Vraiment, s'il y a des collègues, vraiment, je ne crois pas qu'ils prendraient le moindre risque à venir nous dire, mais en quoi est-ce que ce que nous faisons risque d'avoir des applications militaires. Et ça me fait venir à quelque chose qui me paraît essentiel. Vous avez posé la question, à quoi servent les maths? Il faut continuer. À quoi sert la musique? À quoi servent un certain nombre d'activités que les gens font simplement pour leur plaisir? Enfin, quelle est votre conception de l'homme? Il n'est pas... Il est vrai qu'un certain nombre de gens ont des activités auxquelles la masse n'a pas accès, mais je ne pense pas que c'est en décidant que M. Einstein, il ne doit pas faire de la recherche, ou M. Évariste Galois ne doit pas faire de la recherche, que vous arriverez à enrichir, à rendre plus riche la vie des gens qui ne sont ni Galois ni Einstein. Il y a des problèmes qui sont posés pour les gens qui ne sont ni Galois ni Einstein, et qui sont dans des grandes institutions dans lesquelles l'organisation de la recherche de façon industrielle, ça pose des problèmes considérables, des angoisses considérables. Mais je trouve qu'avec votre façon de rejeter totalement la science, vous rejoignez Planète, vous rejoignez un certain nombre de... Vous voyez à quoi je pense, hein? Vous rejoignez un certain nombre d'obscurantistes. Je m'excuse. Bon, il faudrait pouvoir... comme je vous reçois dans l'estomac pour la première fois, hein, je ne peux pas critiquer vos positions, mais il y a beaucoup de choses chez vous qui mériteraient un débat.
C'est ça. Si vous me permettez, je vais dire quelques mots à propos de votre intervention. Donc, vous me reprochez un nihilisme anti-science. En fait, c'est vrai que dans la mesure où par science, on entend l'activité scientifique telle qu'elle est exercée actuellement, je suis arrivé à la conclusion que par beaucoup de points, c'est une principale force négative dans la société actuelle. Ce n'était sans doute pas le cas il y a 200 ans et peut-être même pas le cas il y a 100 ans. Actuellement, je crois que la situation a beaucoup changé. Mais encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense que l'activité scientifique actuelle, elle est susceptible de se modifier très très profondément. Je pense que ceci ne se fera pas sans que la plupart des secteurs d'activité scientifique actuelle dépérissent purement simplement. Je suis tout à fait convaincu que, disons, les recherches actuelles où on se met à cataloguer des particules élémentaires correspondant à tel et tel opérateur dans l'espace Hilbert, ou les recherches mathématiques dans lesquelles j'ai été impliqué jusque maintenant, que je suis persuadé que ces choses-là vont dépérir, non pas par un décret autoritaire de moi ou de personne, mais simplement que par le fait suivant, c'est que lorsque les structures actuelles de la société vont s'écrouler, lorsque le fonctionnement ne marchera plus parce que la société industrielle, par son fonctionnement normal même, ces mécanismes sont autodestructeurs, ils détruisent l'environnement, et heureusement pour nous, je dirais, de telle façon qu'ils ne peuvent pas continuer à fonctionner indéfiniment. Ils mettent en marche des processus irréversibles. Eh bien, il y aura écroulement de nos modes de vie actuels, et il se trouvera que lorsque nos cités, par exemple, s'écrouleront, lorsque personne ne payera plus les salaires qui nous permettront, grâce à une activité scientifique ésotérique, d'aller... ensuite d'aller acheter les provisions dont nous avons besoin dans les magasins, d'acheter des habits, de payer nos loyers, etc. Et alors, même que nous aurions l'argent, cet argent ne nous servirait à rien, parce que la nourriture, il nous faudra l'arracher de la terre par nos propres moyens, parce qu'il n'y aura plus assez. Eh bien, à ce moment-là, les motivations même pour étudier les particules élémentaires disparaîtront entièrement. À supposer même... Et à supposer même qu'il y ait des gens, parce que moi-même j'étais assez fanatique, si on peut en dire de la recherche, j'étais vraiment très très empoigné, il y a des nobles passions, disons, mais à supposer même qu'il en reste des physiciens qui, malgré, une pression extrêmement forte des nécessités matérielles pour la survie, qui rêveraient de continuer la recherche, il ne faut pas oublier quand même qu'un accélérateur de particules, c'est quelque chose que nous ne fabriquons pas avec quelques morceaux de bois, c'est quelque chose qui implique un effort social considérable, et je doute fort que les autres soient disposés à distraire des activités véritablement nécessaires pour établir un monde viable et vivable, digne d'être vécu, qu'ils soient encore disposés à fournir un effort considérable pour rebâtir des accélérateurs à particules et des choses analogues. En tout cas, je crois que pour les accélérateurs et autres engins de ce genre, je crois que le large public n'a jamais été consulté. D'ailleurs, j'ajoute que s'il avait été, probablement, il aurait été de telle façon qu'il aurait dit « Amen ». Mais je pense qu'après les leçons que chacun de nous qui survivra pourra tirer des événements qui accompagnent l'écroulement de la société industrielle, je pense que les mentalités auront très profondément changé. Pour cette raison, je crois que ce ne sera pas parce qu'un tel ou un tel aura décidé par autorité, même que nous ne ferons plus de recherche scientifique à partir d'aujourd'hui, que la recherche scientifique cessera. Elle cessera simplement comme quelque chose qui, d'après un consensus général, sera devenu entièrement inintéressant. On n'aura plus envie, simplement, j'en suis persuadé, d'en faire. Ça ne signifie pas qu'on n'aura plus envie de faire de la recherche tout court. La recherche, disons, nos activités créatrices, se dirigeront dans des directions tout à fait différentes. Et je pense, par exemple, que les gens de recherche qui sont en train de poursuivre les nouveaux alchimistes, avec donc des milliers de gens, de petits gens qui n'ont pas de formation universitaire, ce sont des choses fascinantes et qui mettront en jeu la créativité de chacun de nous de façon aussi profonde et peut-être plus satisfaisante qu'actuellement les travaux ultra spécialisés en laboratoire. En somme, je crois que l'effort que nous devrions essayer de faire, c'est le suivant. Nous avons été élevés dans une certaine culture ambiante, dans un certain système de référence. Et pour beaucoup d'entre nous, d'après des conditionnements reçus dès l'école primaire, en fait, nous considérons que la société telle que nous la connaissons, c'est l'aboutissement ultime de l'évolution, c'est le nec plus ultra. Enfin, c'est en tout cas le cas, je crois, pour une majorité des scientifiques. Mais nous oublions que des civilisations, il y en a eu des centaines et des milliers, des cultures différentes, elles sont nées, elles ont vécu, elles ont fleuri, et elles se sont éteintes. Et notre civilisation, ou la civilisation, parce que je ne la considère plus comme la mienne, la civilisation industrielle, n'y fera pas exception. Mais une chose qui va au-delà de cette remarque, à mon sens, c'est de réaliser qu'il s'agit d'un processus qui est vraiment devant nous, dans lequel nous sommes déjà engagés maintenant. En fait, la crise écologique, la crise de civilisation, ce n'est pas quelque chose pour dans 10 ans ou dans 20 ans. Nous sommes en plein dedans. Et je crois qu'il y a de plus en plus de personnes qui s'en aperçoivent. Et en fait, c'est une chose qui, tout au cours de ces tout derniers mois, de ces toutes dernières semaines, me frappe de plus en plus. À quel point des gens, parfois dont on s'y attendrait le moins, commencent à sentir, on gratte un tout petit peu en dessous des choses superficielles qu'ils disent, on s'aperçoit qu'il y a un véritable désarroi concernant, disons, le sens global de la culture ambiante. Alors, voici donc, concernant l'accusation de nihilisme, donc il y a du vrai dedans, si on applique à une certaine activité scientifique. Alors, j'ai oublié un petit peu quelles autres objections vous faisiez. On doit la vie à la science. Je crois qu'il y a des choses utiles à dire à ce sujet, oui. C'est ça. D'une part, il y a beaucoup de choses, je crois, à dire à ce sujet. À supposer que certains ici doivent la vie à la science, on peut dire qu'il y a des centaines de milliers de gens aux États-Unis, mais au Vietnam, qui doivent également leur mort et leur mort sous des conditions atroces à la même science. On peut dire. Alors là, effectivement, c'était l'argument facile parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, eh bien, c'est la science qui a été mal employée et le seul problème, c'est que, bon, on fasse toujours la même espèce de science et que maintenant, il faut la mettre entre les mains de gens qui vont l'employer bien. Alors, et on nous dira, par exemple, eh bien, la médecine, les recherches biologiques, etc., c'est le type de science qui est utilisé surtout de façon bénéfique. Alors là encore, il y a une façon facile d'y répondre en disant, eh bien, les mêmes genres de recherche fondamentale en biologie qui, par un travail d'engineering, va par exemple être utilisé pour développer des vaccins, disons, anti-poliomyélite ou contre d'autres maladies, ce même genre de recherche fondamentale, par d'autres travaux d'engineering, va être appliqué pour produire des souches de microbes très, très pathogènes, très résistants à tous les agents antibiotiques et qui sont utilisés pour la guerre bactériologique. Donc finalement, la recherche n'a pas d'odeur, et quelles que soient les intentions de celui qui promeut un certain type de recherche, en tout cas, le type de recherche qui est actuellement promu par la, à l'intérieur de, nos, de notre science traditionnelle, eh bien, l'expérience semble montrer qu'elle est toujours détournable et toujours détournée. Alors, si vous voulez, comme j'ai donné l'exemple ici de la guerre bactériologique, disons, les deux exemples étaient un peu du même type en ce sens qu'on peut la considérer comme liée à un accident, à savoir l'existence d'appareils militaires, l'existence de nations antagonistes. On se dira, bon, supposons que ces difficultés soient éliminées, que les rêves des citoyens du monde, disons, soient réalisés, qu'il y ait un gouvernement mondial, ou bien supposons que les États-Unis aient, ou la Russie au choix, ou la Chine, aient bouffé l'ensemble de la planète, qu'il n'y ait plus qu'un seul pays, ou supposons que la planète soit plus petite qu'elle n'est et qu'elle ne soit constituée que par les États-Unis, ou bien supposons que les États-Unis, par une politique isolationniste extrême, arrivent à vivre en vase clos, et regardons ce qui se passe aux États-Unis. Eh bien, je prétends qu'en fait, les problèmes sont plus profonds que ça, que les problèmes essentiels se posent encore, dès lors même qu'il n'y aurait plus de problème militaire. Alors, prenons par exemple les antibiotiques, dont vous avez parlé précisément, puisqu'elles sauvent effectivement des vies humaines. Mais que voyons-nous pour l'usage des antibiotiques? Nous voyons que lorsque nous avons les moindres rhumes, n'importe quelle affection, quelle qu'elle soit, nous allons au médecin, et qu'est-ce qu'il nous prescrit? Il nous prescrit des antibiotiques. En fait, une simple fatigue, très souvent, c'est des antibiotiques qu'il nous prescrit. Il semble être pris dans une sorte de, sous une certaine pression sociale, à savoir son client attend de lui, qu'il prescrive à chaque fois le remède qui est susceptible, le plus rapidement possible, donc le plus efficacement possible, d'apporter une amélioration, ceci prend sans préjudice de ce qui va se passer à longue échéance. Or, n'importe quel biologiste vous dira, il n'a pas besoin d'être un grand génie pour ça, et même moi je le sais bien que je ne sois pas biologiste, que le fait d'utiliser à titre routinier les antibiotiques est une véritable contresens. Parce que par cette pratique-là, en fait, nous contribuons à la formation de souches de microbes dans notre organisme qui vont être résistants précisément aux antibiotiques que nous prenons, de telle façon que dans les cas véritablement graves, où une intervention urgente par antibiotiques serait susceptible de nous sauver la vie, eh bien nous risquons de rester sur le carreau. Alors maintenant, nous sommes dans une situation où il est malaisé d'évaluer les bénéfices ou les avantages qu'il y a eu dans l'emploi des antibiotiques, qu'est-ce qu'il importe sur l'autre? Est-ce que les dizaines de milliers de vies qui ont été sauvées par l'emploi d'antibiotiques, est-ce que ça pèse plus lourd dans la balance, disons, que les millions d'organismes qui ont été affaiblis dans leur résistance naturelle aux agents microbiens par l'usage inconsidéré des antibiotiques? Alors, je ne trancherai pas ce problème, mais je dirais simplement qu'ici, la question n'est pas une question technologique, ce n'est pas une question de connaissance, parce qu'il est bien clair que les biologistes ont les connaissances nécessaires pour décider dès maintenant que l'usage qu'on fait cliniquement, pratiquement, dans la pratique de tous les jours des médecins, elle est insensée. C'est une question de mode de vie, c'est une question de civilisation. Et en fait, je ne dirais pas qu'il faut nécessairement, dans une société idéale, future, qu'il faudrait bannir les antibiotiques. En fait, les antibiotiques, ce sont des champignons qui peuvent être produits avec des moyens extrêmement rudimentaires, sans utiliser des grandes infrastructures de l'industrie lourde. Donc, on peut fort bien utiliser des antibiotiques dans une société très décentralisée dans laquelle des communes de quelques centaines ou quelques milliers d'habitants vivraient dans une autarcie relative. Donc, les antibiotiques, il est tout à fait possible, il est même probable, qu'ils vont continuer à être utilisés dans des sociétés post-industrielles, dans certaines du moins. Bon, donc, ce n'est pas parce qu'elle a été produite dans notre culture scientifique occidentale actuelle qu'il faudrait mettre un interdit général contre ce genre de procédé. Je crois qu'il y a lieu de juger sur pièce, et je crois que ce n'est pas un travail théorique à faire maintenant, à savoir de séparer le bon grain de l'ivraie dans l'ensemble des connaissances scientifiques et des techniques actuellement disponibles. C'est, je crois, un travail qui se fera au jour le jour, suivant les nécessités de l'heure, c'est-à-dire c'est un travail qui ne se fera pas par quelques spécialistes, par exemple par quelques biologistes, médecins, psychiatres, physiciens, etc. Elle se fera par tout le monde au fur et à mesure des besoins. On verra bien de quoi on a besoin dans le grand amas de connaissances scientifiques dont je suis convaincu la plus grande partie est parfaitement inutilisable et va détruire complètement. D'informations secrètes à ce sujet, ce que c'est ça, je ne prétendais pas parler, disons, de relations réelles, officielles ou occultes entre le CERN et des appareils militaires. Je n'ai pas connaissance de telles choses. Ce que je voulais dire, c'est l'image, je crois, que le CERN a, que le nom du CERN a sur, je crois, une large partie du public cultivé, par exemple, enfin plus ou moins cultivé, disons, par exemple, moi-même. Parce que le nom, ben, le Centre européen de recherche nucléaire, le fait qu'il soit comme ça un organisme inter-européen, donc qui groupe un certain nombre de pays, qui soit, disons, qui... le prestige même, disons, qui est attaché à lui et que vous n'ignorez sans doute pas, eh bien, également le fait qu'il s'agisse de recherches concernant tout au moins l'atome, même si ce n'est pas des recherches nucléaires, eh bien, ça, et ceci lié, disons, à, au souci grandissant, à la préoccupation grandissante dans le public vis-à-vis précisément de l'atome, y compris de l'atome pacifique, tout ceci crée une certaine résonance concernant le CERN que, bon, que on ne peut pas nier. Elle ne repose peut-être pas sur des faits objectifs. À cela près qu'en ce qui me concerne, de toute façon, le genre de recherche, le genre de pratique scientifique qui est poursuivi dans le CERN, comme dans pratiquement dans n'importe quelle autre institution scientifique actuelle, mais encore plus à cause, malgré tout, des connotations de la recherche atomique, des connotations générales de la recherche atomique avec, bon, avec des périls à notre survie, eh bien, ceci a comme effet, bon, de créer une gêne, je crois, une, chez beaucoup et chez moi en particulier. Il est mort, le pauvre.
Pointed out a lot of things which are bad, and I fully agree, and they should be changed. The question is, what is the connection with science? You pointed out a lot of scientists are greedy, they are look for honor, they are hierarchical and all that, they are in a stratification. The question is it actually different among artists, among farmers, among statesmen, among in other... Okay. Second question, very similar, is you pointed out very many things are bad about the human side. People commit suicide, they're driven to suicide, they have nervous breakdowns. The question there again is that different among statesmen, businessmen, etc., and the science responsible for these bad things? Is it really science which makes people greedy, which makes people make suicides? And, or more specifically, do you think, I mean, just one example, there have been poets who have written very beautiful things and have had no communication with their, say, their wives, for example. Do you again think it's really science which makes a communication breakdown? I think it's more in the nature of human beings, and it is bad, we have to fight against it, but it's nothing to do with science. And finally, the question about wars, about Vietnam. I think we all agree it's a tragedy, but is really science responsible for it? I mean, 3,000 years ago, do you think it was fundamentally different? Thank you.
Yeah, I agree with you that many features I've said about science. Pardon, je dois parler en français. C'est ça. Je suis tout à fait d'accord avec vous que la plupart des aspects que j'ai nommés pour la pratique scientifique, un certain nombre tout au moins, ne sont pas spécifiques de la recherche scientifique. Je ne pense pas nécessairement qu'il y ait plus de suicides, disons, parmi les mathématiciens que dans beaucoup d'autres professions. Simplement, pourquoi est-ce que j'en ai parlé? C'est parce que on parle le mieux, malgré tout, du milieu que l'on connaît, on parle de première main, et parce que, finalement, il y a un certain mythe qui veut que les choses soient mieux dans la communauté scientifique, qui veut, par exemple, que l'activité scientifique soit nécessairement source de satisfaction, source de plaisir, de joie, alors que dans un certain nombre de cas, on peut montrer que c'est précisément l'activité scientifique qui est source de contraintes, qui est source de répression, de drame. Je connais d'autres cas, disons, moins extrêmes que celui-là, de ma pratique personnelle. Donc, c'est pour aller à l'encontre de certains mythes que j'ai parlé de ces cas-là, mais autrement, je suis tout à fait d'accord avec votre objection. Donc, finalement, je crois qu'il y a un malentendu, ce n'est pas vraiment une différence de vision importante. Mais quelle était votre dernière question ?
Oh, the question was again about good and bad of science. I made one example, said Vietnam. Could Vietnam not have happened 3,000 years ago, or with the Romans when they did some job somewhere? The second question, let me just put that in addition. You could say the same thing about philosophy and religion. Lots of philosophies and religions, besides having done very good things, have also done very catastrophic things. Think of maybe the Third Reich and so on.
Mais je l'avais dit dès le début, que je ne pense pas que la science soit la seule cause de la situation assez catastrophique dans laquelle nous nous trouvons. J'avais dit dès le début que c'est une des causes, en tout cas si cette cause n'existait pas, les problèmes, disons, à la survie de l'humanité ne se poseraient pas actuellement. Ils se poseraient peut-être dans quelques siècles, mais ils ne se poseraient pas à l'heure actuelle. Alors bien entendu, des guerres comme celle du Vietnam pourraient fort bien avoir lieu et ont eu lieu, disons, sans que la science et les développements actuels. Ce qui est frappant, je crois, pour un scientifique, c'est de constater à quel point les techniques scientifiques les plus modernes trouvent leur application dans cette guerre du Vietnam. J'ai été au Vietnam du Nord moi-même, par exemple, et j'ai pu discuter sur place avec les intéressés sur les différents perfectionnements des bombes à billes, par exemple, qui éclatent pour qu'elles puissent mieux frapper les populations civiles, qui éclatent en l'air avant même de toucher le sol, pour qu'elles puissent pénétrer, pour que les billes qui font comme ça un mouvement de spin très rapide, pour mieux déchiqueter les chairs, pour que ces billes puissent pénétrer à l'intérieur des abris anti-aériens qui sont creusés un peu partout le long des rues et le long des routes, pour peu qu'on n'ait pas pris soin de les fermer. En fait, malgré les consignes, la plupart des Algériens, comme ils ont envie de voir ce qui se passe, ne ferment pas les trous. Alors, dans le cas où les bombes explosent, ceci rend ces abris à peu près illusoires. Le fait aussi, par exemple, qu'on ait développé des bombes à billes où les billes de métal sont remplacées par des billes en plastique, de telle façon que la détection de ces billes par les moyens de radiographie devienne impossible. Donc il faut développer des techniques nouvelles pour arriver à extraire ces billes de chair déchiquetée. Le simple fait d'ailleurs que la technologie militaire au Vietnam soit plus orientée vers une mutilation de la population que pour la tuer directement, parce qu'une personne qui est mutilée demande des soins de beaucoup d'autres gens pour la maintenir en vie, pour la soigner, alors qu'une personne tuée en demande très peu. Donc c'est un certain nombre d'aspects assez atroces. La technologie liée véritablement à une recherche à l'état actuel de la science. En fait, il y a une chose dont je ne me rendais pas compte au moment où j'ai commencé à réfléchir sur ces questions, c'est que pratiquement toutes les grandes firmes commerciales, américaines tout au moins, c'est vrai dans une moindre mesure pour les firmes françaises, je ne sais pas ce qu'il en est pour les firmes suisses, sont directement impliquées dans les fabrications d'armement. En fait, lorsque j'ai quitté l'Institut à cause de la présence de 5% de l'Institut où je travaillais, à cause de la présence de 5% du budget qui était d'origine militaire, à ce moment-là, je ne voyais rien à redire au fait que la plupart des fonds provenaient de firmes telles que SO, Saint-Gobain et autres. Mais depuis lors, j'ai découvert que ces firmes sont très directement impliquées également dans ces fabrications d'armement. Elles ont toutes des importants contrats avec l'armée. De telle façon que finalement, il devient impossible de distinguer entre la recherche militaire, disons, et la recherche tout court, et même entre, disons, les firmes d'usage courant et les firmes liées à la prolifération des appareils militaires. Finalement, j'ai fini par m'apercevoir que tout était inextricablement lié. Au fait, je m'aperçois qu'il y a une question à laquelle je n'ai pas répondu concernant, qui était liée peut-être à Galois. C'était l'affirmation qu'il était bon de poursuivre la recherche scientifique pour elle-même, en tant que, disons, comme en tant que pour le plaisir de la connaissance pour elle-même, au même titre qu'on poursuit une activité artistique. Alors là, il y a peut-être une ou deux choses à dire. Une première chose, c'est que pour arriver à apprécier le genre de mathématiques que je dis, pour arriver à comprendre et apprécier le genre de mathématiques que j'ai faites, par exemple, il y a 3 ans encore, eh bien, il faut quelque chose à supposer même qu'on court-circuite les canaux habituels dans l'enseignement, qu'on aille directement au fait, à l'essentiel. Il faut compter quelque chose comme une formation de 5 à 10 ans spécialisée de mathématiciens. Or, il est bien clair que ceci, une telle formation sera, dans l'état actuel des choses, l'apanage d'une infime minorité de la population. Donc, il est tout à fait naturel. D'autre part, le genre de choses que je faisais, bon, des centaines d'autres mathématiciens faisaient des choses tout aussi ésotériques dans leur coin, de telle façon que finalement, ceux qui arrivaient à comprendre le genre de choses que je faisais, il y a 3 ans, il y avait peut-être au monde, que sais-je, peut-être 5, 10, 15, 20 personnes, quelque chose dans ce goût-là. C'est ça, pour comprendre, apprécier une chose que je fais, à laquelle je me livrais intensément depuis quelques années. Alors, la différence est très très grande avec, disons, l'importance donc, que peut avoir du point de vue artistique, disons, de l'activité mathématique est très différente de l'importance que peut avoir, par exemple, la musique. Parce que la musique, pour la ressentir, nous n'avons pas besoin d'une longue formation. En fait, nous n'avons même pas besoin d'être encore nés, parce que même un embryon dans le ventre de sa mère réagit déjà aux stimulus musicaux. Je crois que pas mal de personnes ont dû faire l'expérience. En tout cas, je l'ai faite avec ma femme l'a faite. Et c'est que lorsque il y avait une musique de jazz, alors qu'elle était enceinte depuis 5 ou 6 mois, eh bien, les bébés dansaient dans son ventre. Alors, bien entendu, quand je parle d'art ici, je parle de l'art élémentaire, de l'art que nous pouvons apprécier et même que nous pouvons faire chacun de nous, de la musique, du dessin, de la poterie, des choses comme ça, qui demandent une formation relativement minime. Mais il est vrai qu'également dans les arts, comme dans les sciences, comme dans pratiquement toute activité humaine, également, disons, dans l'activité physique, dans les sports, finalement, l'aspect de compétition prend de plus en plus d'importance, qu'actuellement, quand on dit art, le réflexe chez presque tous de penser à des gens comme Rubinstein, ou bien comme Gizé King, ou comme Heifetz, ou bien comme Picasso, etc., c'est-à-dire de penser immédiatement aux grands virtuoses de l'art, ceux qui sont arrivés à une position de prestige extraordinaire. L'art, finalement, ça devient une sorte d'apanage d'un tout petit nombre de gens qui font de l'art pour nous par procuration, parce que l'art, il n'est absolument plus question que chacun de nous soit capable d'en faire dans sa propre vie et d'en faire de sa propre vie. Or, je pense que ça, c'est encore une des choses peut-être qu'on pourrait dire à propos de la question de ce qu'on entend par une vie qui vaut la peine d'être vécue. Bien, c'est une vie précisément qui contient sa part de créativité, y compris sa part de créativité artistique. Et je crois qu'il est beaucoup plus important que chacun de nous soit capable d'être artiste dans son propre domaine et à son propre niveau, à produire de la musique, à en exécuter, disons, sur un harmonica, sur un piano, sur une guitare, et en retirer du plaisir direct. Ce plaisir, je crois, sera infiniment plus profond que le plaisir qu'il pourra avoir à écouter un disque de Heifetz ou de Gizé King. Il est d'une autre nature, en tout cas, il se place à un autre niveau. Peut-être que l'un n'empêche pas l'autre, ce n'est d'ailleurs pas clair. J'ai l'impression que finalement, le genre de mentalité qui règne parmi les grandes virtuoses, qui les fait exécuter, par exemple, 5 heures de gamme par jour, jour pour jour, de telle façon à finalement tuer une grande partie de la joie qu'ils ressentent à faire de la musique, et ceci est nécessaire pour arriver à tenir le coup dans la compétition très très forte qui s'exerce entre virtuoses, je crois qu'elle est à peu près du même type que le genre de compétition, parfois même inconsciente qu'il y a entre scientifiques qui fait que des gens comme que je connais, y compris moi-même, parfois passent 15 heures de leur journée, jour pour jour, pendant longtemps, à essayer de développer des théorèmes mathématiques de plus en plus sophistiqués, de plus en plus ésotériques. Et j'ai l'impression que ce type de mentalité est une mentalité qui va disparaître dans les générations qui viennent.
Entre vous et la science, d'une part, entre vous et les humains qui vous entourent. Et vous avez constaté qu'il y a en quelque sorte, notre monde est un monde où il n'y a pas de dialogue. En tout cas, il y a un triste monologue sous des apparences un peu spéculatives et que si on voulait réellement, disons, charcuter dans chacun de nous, vous dites, essayez, vous verrez quel est votre drame. En fait, vous nous appelez à prendre conscience de ce monde. Bon, admettons que nous prenons conscience de ce monde comme vous. Je vous pose la question suivante. Pensez-vous qu'il y a quelque chose de beaucoup plus, quel que soit le monde de la civilisation, et qui est propre à l'homme, c'est cette liberté qui est troublante de se poser des questions à sa façon, de se poser la liberté. Pourquoi, par exemple, les planètes tournent de cette façon autour du Soleil? Pourquoi le Soleil s'est levé pour les gens d'un côté et pas de l'autre côté? Pourquoi les grains poussent? Pourquoi nous sommes malades? Pourquoi nous sommes malheureux? Pourquoi nous prenons la conscience de ce qui ne va pas? Donc cette grande liberté me paraît un tout petit peu aussi être condamné vis-à-vis de la science quand nous la prendrons, parce qu'en fait, nous avons aussi cette liberté de dire la science est un malheur. Vous pensez que en nous faisant prendre cette conscience que la science, telle qu'elle est actuellement, est mauvaise, vous supprimerez à l'avenir, n'est-ce pas, toute liberté aux autres, peut-être un jour qu'ils se reposeront, peut-être la science est bonne. Donc, voyez-vous, cet aléa, et en quelque sorte comme un pendule, l'homme est à la fois cohabité par l'ange et le démon. Vous voudriez simplement, n'est-ce pas, qu'il soit habité par l'ange, j'en serais ravi. Mais l'histoire humaine a montré souvent, n'est-ce pas, qu'il oscille, n'est-ce pas, du mauvais et du bien. Cette dualité était propre de l'homme et de sa destinée. Je vous prévoyais peut-être que le pendule ira cette fois-ci de bon côté. J'espère avec vous. Mais je ne sais pas si ce pendule sera arrêté dans l'avenir à cette position.
Oui, justement. Elle est très obscure. Essayez d'être résumée.
Une des questions, c'était de savoir si, en tournant le dos à la science telle qu'elle se fait actuellement, donc, en éventuellement prenant la liberté aux gens de se poser le genre de questions que se pose la science actuelle, on ne va pas supprimer en même temps la liberté ou une partie appréciable de la liberté. Est-ce que ce n'est pas une de vos questions?
Si l'homme ne reviendra pas de nouveau après une période de nirvana sans la science, de revenir parce qu'il est cohabité à la fois par le démon, de revenir de nouveau à la mauvaise science.
Oui.
C'est cette question de liberté, n'est-ce pas, qui est propre à l'homme, c'est-à-dire de choisir malheureusement son malheur et son bonheur.
C'est ça. Je voudrais dire à ce propos, primo, que moi-même ou bien mes amis dans Survivre et Vivre, on ne recommande aucunement de prendre des mesures coercitives qui empêcheront qui que ce soit de faire de la science. La question n'est pas là. Si je dis que je prévois que la science telle qu'elle est pratiquée actuellement va dépérir, que par exemple je prévois que la mathématique toute entière à très 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 peu de choses près va disparaître dans les générations qui viennent, Je pense qu'il s'agira d'un dépérissement tout naturel parce que les gens ne se sentiront plus incités à en faire. Alors, on peut dire, par exemple, je peux donner un parallèle beaucoup plus petit, bien entendu, de ce qui s'est passé, paraît-il, je ne sais pas si mes souvenirs historiques sont exacts, je crois que c'était dans les premiers siècles de notre ère, où la science des sections hyperplanes, des sections coniques et des faisceaux de coniques, des choses dans ce goût-là, des familles de coniques, est arrivée à un degré de complexité de floraison telle que les mathématiciens de cette époque pensaient que c'était la fin de la mathématique parce que, de toute façon, en allant au-delà de ce point, il serait impossible, c'est ça, choses deviendraient d'une complexité telle que ce serait impossible à l'esprit humain de se reconnaître. Or, ce qui est arrivé, c'est que purement et simplement, on a laissé tomber complètement ce genre de spéculation et la mathématique a continué dans des voies entièrement différentes. Et on s'aperçoit bien que la mathématique, elle n'a pas cessé de produire du neuf jusqu'à aujourd'hui. Alors, dans le même sens, je pense que, bon, une direction de recherche beaucoup plus grosse, bien entendu celle qui s'est développée depuis 400 ans, disons, dans un certain esprit, va dépérir de la même façon et que l'esprit humain prendra des avenues très très différentes, non pas de façon coercitive, simplement, parce que il y aura des impératifs liés à nos besoins véritables. Je pense, par exemple, que l'agriculture, l'élevage, la production d'énergie décentralisée, une certaine espèce de médecine très différente de la médecine qui prévoit actuellement, vont être à l'avant-plan. Alors, il est impossible de dire dans quelle sera la part, disons, de joie purement créatrice qui, dans ces développements nouveaux, j'espère qu'en fait, ce sera un développement créateur où il n'y aura pas de différence essentielle entre travail, disons, et épanouissement, activité créatrice. Il n'y aura pas non plus de différence essentielle entre activité conceptuelle et entre activité physique manuelle. Mais enfin, il est, d'autre part, à partir du moment où les hommes deviendront suffisamment maîtres de leurs besoins pour qu'une part appréciable de leur créativité reste libre, et ceci prendra un temps qu'on ne peut pas prévoir, peut-être ce sera une génération, peut-être ça en sera 10, nul ne le sait, et qu'à ce moment-là, n'importe qui, pas seulement une certaine élite scientifique, sera en mesure de se dédier une partie importante de son temps à des activités purement créatrices, purement spéculatives, purement ludiques, à ce moment-là, je crois qu'il y aura beaucoup moins d'inconvénients, et même si à ce moment-là, on reprend certaines des directions de recherche qui auraient été abandonnées entre-temps, par exemple, certaines directions de la mathématique actuelle, ou même la physique, si la société ambiante est prête à en prendre les charges, parce que la physique actuelle ne se fait pas simplement par la tête, elle se fait avec une instrumentation sérieuse, avec des mises de fonds, mises d'énergie collective importantes, à ce moment-là, je ne vois pas d'inconvénient, mais je crois que c'est absolument impossible de prévoir maintenant.